avions regardé la dernière fois. La manière dont Maritain parle de la personne. Et je vous rappelais cette distinction que Maritain fait entre individu et personne. Cette distinction qui ne va pas très loin et qui ne sert pas à grand chose, en fait. Je voudrais dire un tout petit mot aussi, dans son étude sur la structure de la personne, le père Geffray, dominicain, qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, interprète ainsi les affirmations de Jacques Maritain, que nous avons citées. Monsieur Maritain serait le premier à le reconnaître. Le mot cherche par là à exprimer l'affleurement à la conscience d'une non-coïncidence ontologique entre personne et nature. La nature, comme structure constitutive, est quelque chose de reçu. Et en ce sens, elle s'impose à nous. Au contraire, l'activité immatérielle de la personne comme sujet connaissant et aimant, est une création originale de chaque personne. Oui. Je cite ça, c'est pour vous montrer que le conflit, tout le problème, chez les thomistes, ou ceux qui ont une formation thomiste, c'est vraiment le problème de la nature et de l'esprit. C'était le vieux problème d'Aristote. On n'a pas avancé d'un pouce. Quand vous regardez le De Anima, vous voyez que tout problème d'Aristote, c'était ça. C'était la phusis et puis le nous. Alors, ils reviennent exactement le même avec. La différence, c'est qu'Aristote, c'est net. Tandis que après, c'est les moins. Au contraire, l'activité immatérielle de la personne comme sujet connaissant et aimant est une création originale de chaque personne. Et comme si la connaissance et l'amour étaient une création originale de chaque personne. Donc sans objet, c'est ça que ça veut dire. Ex nihilo. Un fruit qui ne procède que d'elle. C'est très, très énorme. Oui, un fruit qui ne procède que d'elle, donc ex nihilo, c'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on dit une création. Donc la subjectivité de la personne est prise comme un absolu. Alors que quand on parle de nature, on parle d'un donné. Il y a quelque chose de vrai, comme toujours. Et ça va loin, vous voyez. Et la personne voudrait, si cela était possible, l'affranchissement dont témoignent ces opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Je ne sais pas si vous avez éprouvé ça en tant que personne, si vous ne l'avez pas encore éprouvé, vous n'êtes pas encore une personne. Écoutez bien, c'est dit, donc vous devez l'éprouver si vous êtes une personne. La personne voudrait, si cela était possible, elle voudrait quand même, que l'affranchissement dont témoignent ces opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Donc, par cette espèce d'infini de la connaissance et de l'amour, on voudrait trouver, au niveau de l'être, une indépendance absolue. C'est ça que ça veut dire, je crois. N'est-ce pas ? Que l'affranchissement dont témoignent ces opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Or, en fait, la personne doit compter avec les limitations que lui impose le corps. Par son esprit même, elle dépend d'objets et de mesures autres qu'elle-même. Enfin, plus profondément, sa nature est déterminée lorsqu'il s'agit de cette surexistence illimitée de la connaissance et de l'amour. Ainsi, quand nous disons avec M. Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même, et par là cherche en quelque sorte à dépasser sa condition de créature, nous ne considérons plus la personne comme une nature enfermée dans un genre et dans une espèce, mais comme une perfection transcendantale dans sa nature métaphysique. La subjectivité transcendantale de Kant, vous voyez. Le père Geffray, cherchant à préciser sa pensée, souligne que si le degré d'une nature inférieure ne désire pas le degré propre d'une nature supérieure. Cependant, lorsqu'il s'agit de perfections transcendantales, il en va autrement, car des perfections transcendantales, comme intelligence, amour, personnalité, ne s'anéantissent pas en passant à un degré supérieur. Au contraire, plus on monte dans les degrés des êtres, plus ces perfections sont conformes à leur ratio. C'est cité, hein ? La personne est une perfection transcendantale dont le premier analogué se retrouve en Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça veut dire. Je crois que c'est l'ontologie de la personne. On retrouve exactement. Le premier analogué de la personne, c'est Dieu. C'est très vrai que c'est Dieu qui est la seule personne parfaite. Mais la ratio, qu'est-ce qu'elle devient ? Alors pour lui, la ratio, je présume, puisqu'il le dit, au contraire, plus on monte dans les degrés des êtres, plus ces perfections sont conformes à la ratio. Ça peut s'entendre, ça. Mais c'est un petit peu gênant. La personne est une perfection transcendantale dont le premier analogué se retrouve en Dieu. Et le père Geffray n'hésite pas à affirmer « Il y a en moi un désir naturel de la personne à atteindre la plénitude de sa perfection, à savoir la parfaite indépendance. » Donc, nous avons un désir naturel d'être complètement indépendant du Créateur. On fonde l'anarchie. C'est ça l'anarchie radicale. C'est de supprimer la dépendance radicale à l'égard du Créateur. Donc la personne comme telle, c'est au fond en nous un désir naturel de totale indépendance. Donc le père Geffray n'hésite pas à affirmer, citer, s'il y a en moi un désir naturel de la personne à atteindre la plénitude de sa perfection, à savoir la parfaite indépendance. De même, en tout être créé, il y a un ordre à laisser, à rejoindre l'essai divin. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un ordre à laisser. Il y a un ordre à laisser, de l'essence à laisser. Mais il n'y a pas à rejoindre l'essai divin. Oui, c'est l'ontologisme, ça. L'ontologisme au niveau de l'acte, au niveau de l'essai. Ce désir est vraiment une tendance ontologique. Donc vous avez une tendance ontologique à l'essai divin. C'est assez extraordinaire. Au fond, la personne est conçue comme une ratio supérieure. Le surhomme de Nietzsche. Pour le père Geffray, les trois grandes propriétés de la personne, ou ses conditions sine qua non, sont la conscience, l'infinitude et la liberté. C'est les trois grandes propriétés de la personne. Donc c'est les trois propriétés des perfections transcendantales. La conscience, l'infinitude et la liberté. L'infinitude fait partie de la personne. La conscience dérive de la nature intellectuelle de la personne. C'est le nous qui est conscient. Cette conscience de soi témoigne de l'identité au-delà de la variété des opérations. C'est ce que saint Augustin avait si bien senti lorsqu'il parlait de la mémoire de soi. On ne peut pas dire, bien que certains l'aient cru, que la conscience constitue la personne, car elle présuppose le suppôt métaphysique qui seul constitue la personne comme personne. Donc, là, c'est intéressant, Géfray n'accepte pas que la conscience soit constitutive de la personne. Au-delà de la personne, ce que la personne présuppose comme conscience, le suppôt métaphysique, ça c'est le vieux reste d'Aristote et de saint Thomas, le suppôt métaphysique qui seul constitue la personne comme personne. Nous n'avons pas conscience de la conscience, mais de l'identité du moi sous ses divers états. L'identité du moi sous ses divers états. C'est la conscience dans le sens le plus fort qui réunit la personne. L'infinitude relève de la nature intellectuelle qui est infinie. Non en son être comme Dieu, mais intentionnellement. Elle est ouverte à tous les êtres. C'est la noblesse de l'esprit de pouvoir saisir l'infinitude de l'être. Nous touchons là. C'est la noblesse de l'esprit de pouvoir saisir l'infinitude de l'être. Nous touchons là à une certaine transcendance. Enfin, la liberté est comme une brèche en la nature humaine. Celle-ci n'est plus déterminée, autonome. Elle est volontaire et libre. Ayant raison de tout, l'homme se donne les fins de son agir. Il se détermine. Notons bien que chacune de ces qualités se prend de la nature rationnelle de l'homme. On ne peut donc déterminer ce qu'est la personne dans ses propriétés qu'en faisant appel à sa nature. Mais alors, pourquoi faut-il souligner si fortement l'opposition entre les deux? Ça, c'est la petite critique au père Géfray. Ces qualités, dont deux relèvent de l'intelligence et la troisième de la volonté, liées à l'intelligence, appartiennent indubitablement à la nature spirituelle. Comme nature spirituelle, elle ne caractérise donc pas la personne humaine comme personne distincte de la nature. D'autre part, il ne s'agit pas de propriété de la nature spirituelle au sens fort, mais plutôt de certaines exigences des opérations spirituelles et de leur fondement. Être sans les limites de la matière, du corps. Donc, vous voyez, je crois que, là encore, c'est curieux. C'est intéressant pour montrer que, de fait, c'est le grand effort de tous les philosophes d'aujourd'hui d'essayer de préciser ce que c'est que la personne. Et ça reste la bouteille à l'encre. Vous voyez, Maritain, vous voyez, Géfray, ce sont des thomistes. Père Géfray, tout en étant très libre comme thomiste, et veut quand même être thomiste. Et il essaie de définir la personne par cette. Je vous dis, c'est peut-être ça qu'il fait le mieux comprendre ce qu'il veut dire. Sa perfection transcendantale. Mais sa perfection transcendantale devient pratiquement ce que Kant dit à propos de la subjectivité transcendantale. La personne a comme caractère de se déterminer. Donc, et cette détermination doit s'enraciner jusque dans le point de vue ontologique. Alors, un dernier petit mot sur Merleau, sur Heidegger. Il faut quand même le citer. C'est la sonnette du jugement dernier, tu vois. Vous connaissez Heidegger, ça va. Heidegger estime que toutes les recherches et toutes les interrogations jusqu'à présent ont tenu le Dasein pour objet, ont manqué le problème proprement philosophique. Que toutes les recherches et toutes les interrogations qui jusqu'à présent ont eu le Dasein pour objet, ont manqué le problème proprement philosophique. Et il se propose de montrer tout d'abord comment, en parlant d'un moi et d'un sujet immédiatement donné, on manque absolument la réalité phénoménale du Dasein. Si vivement que l'on s'oppose à toute idée d'une substance de l'âme, à toute réification de la conscience, l'idée même de sujet continue de participer ontologiquement à la position d'un subjectum, hypokeimenon, et il faudrait d'abord éclaircir la provenance ontologique de l'idée de chose avant d'en venir à se demander ce que l'on peut entendre positivement lorsqu'on parle de l'être non chosifié, du sujet, de l'âme, de la conscience, de l'esprit de la personne. Vous voyez, cet effort ultime et dernier de Heidegger. C'est toujours étant et être. Moi, je crois. C'est toujours cette opposition qui est là sous-jacente. Ces divers concepts désignent tous des domaines phénoménaux déterminés et explorables. Mais leur application va toujours de pair avec une remarquable indifférence à toute interrogation sur l'être de l'étant ainsi désigné. Ce n'est donc pas par souci d'originalité terminologique que Heidegger évite l'usage des termes sujet, conscience, âme, esprit, personne, vie et homme pour désigner l'étant que nous sommes nous-mêmes, mais par souci de vérité. Donc on voit bien. Tout ce qui est sujet, conscience, âme, esprit, personne, vie et homme, ce sont des étangs. Ce qui est un sujet. Or, l'étang doit être nié absolument pour qu'apparaisse l'être. Et l'être est seul au niveau de l'ontologie fondamentale. Donc, tant qu'on n'a pas atteint l'être, on n'a pas atteint l'ontologie fondamentale. Il faut penser l'être. C'est l'être de la personne qui intéresse Heidegger. Aussi estime-t-il que les interprétations qu'un Husserl, qu'un Scheller, si différentes soient-elles, donnent de la personnalité. Donc, que Husserl et Scheller donnent de la personnalité ont ceci de commun. Qu'elles omettent de poser la question de l'être même de la personne. Pour Heidegger lui-même, la question fondamentale est celle de l'être du Dasein. Et ce qui déforme et égare la question fondamentale du sens du Dasein, c'est une dépendance constante à l'égard de l'anthropologie antico-chrétienne, dont les fondements ontologiques sont insuffisants. Je crois que c'est net pour lui. Hein. Tout ce qui a été dit sur la personne avant lui, c'est l'antico-chrétienne. C'est l'ontologie antico-chrétienne. Cette anthropologie s'est élaborée à partir de la définition grecque de l'homme comme animal raisonnable, ce qui est tout à fait faux, vous ne savez rien, et du principe conducteur d'ordre théologique fourni par la Genèse, créons l'homme à notre image et ressemblance. Et la dogmatique chrétienne n'a jamais voulu poser le problème ontologique de l'être de l'homme. La question de l'être de l'homme a été oubliée lorsqu'on s'est efforcé de déterminer l'essence de l'étant humain. Au contraire, cet être a été compris naturellement comme un être subsistant, tel que celui de toutes les autres choses créées. Heidegger précise ensuite que les fondements ontologiques de l'anthropologie, de la psychologie, de la biologie, loin de pouvoir être induits hypothétiquement des matériaux empiriques, doivent toujours être déjà là lorsque commence la collation de ces matériaux. Il s'agit donc de déterminer cet a priori, non pas de le construire, mais de le rechercher. Et pour Heidegger, l'horizon immédiat qui doit s'offrir à l'analytique du Dasein est la banalité moyenne et quotidienne, qui est un mode d'être du Dasein. Dans la perspective de Heidegger, la détermination essentielle de l'homme s'exprime dans la fameuse formule « la substance de l'homme est l'existence », qui signifie ceci, la manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être, et l'instance extatique dans la vérité de l'être. Ça c'est cité, vous voyez bien. L'instance. Il faut arriver à piger ce que ça veut dire. Parce que c'est l'instance extatique dans la vérité de l'être. En déterminant ainsi l'essence de l'homme, Heidegger ne veut pas rejeter les interprétations de l'homme comme animal raisonnable, comme personne, comme être spirituel, doué d'une âme et d'un corps. Mais il veut montrer que ces interprétations humanistes, qui sont de fait les plus hautes déterminations humanistes de l'essence de l'homme, n'expérimentent pas encore la dignité propre de l'homme. C'est en ce sens que Heidegger est contre l'humanisme. Mais s'il pense contre l'humanisme, c'est parce que l'humanisme ne situe pas assez haut l'humanitas de l'homme. Car la grandeur essentielle de l'homme ne repose assurément pas en ce qu'il est la substance de l'étant comme sujet de celui-ci. Pour dissoudre dans la trop célèbre objectivité, en tant que dépositaire de la puissance de l'être, l'être étant de l'étant, l'homme est bien plutôt jeté par l'être lui-même, avec un grand T, par l'être lui-même dans la vérité de l'être, afin que, existant de la sorte, il veille sur la vérité de l'être, pour qu'en la lumière de l'être, l'étant apparaisse comme l'étant qu'il est. L'homme est le berger de l'être. C'est vraiment l'être de la personne que Heidegger cherche. Cet être qui a été oublié, car on ne s'est intéressé qu'aux plus hautes déterminations humanistes de l'essence de l'homme. Or, ces plus hautes déterminations n'ont plus de véritable signification si l'être de l'homme est oublié. La vérité ultime de cet étant unique qu'est l'homme, c'est son être propre. C'est d'être jeté par l'être lui-même dans la vérité de l'être, afin de veiller sur la vérité de l'être. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez compris, mais on voit au moins son effort. C'est ça qui me semble intéressant. Il veut dépasser toute précision humaniste de l'homme. L'homme ne se réduit pas à l'humanisme. C'est ce qu'il dit, que l'humanitas de l'homme, c'est ça qu'il cherche. Alors on le dit en latin, ça vaut mieux. L'humanitas de l'homme, c'est plus que tout ce qui a été dit. Et pour découvrir ce qu'est l'humanitas de l'homme, il faut découvrir l'homme par l'être. Et vous voyez toute la difficulté. C'est parce que quand Heidegger a dit « penser l'être », il a tout dit. Donc « penser l'homme ». Et penser l'homme, est-ce que ce n'est pas penser l'être ? puisque c'est le gardien de l'être. Je me demande si au fond, au dernier lieu, on n'arrive pas à ça. Être et homme, être et personne. Ça me semble être au même niveau. L'être, on attend Dieu par l'être, puisque c'est la chose ultime, c'est ça. On ne dit rien sur Dieu. L'être n'est pas le néant. On ne dit rien sur Dieu en disant l'être, mais on attend. Et il semblerait bien que l'être, voyez, la vérité ultime de cet étant unique qu'est l'homme. Donc, il reconnaît, et ça c'est déjà beaucoup, il reconnaît que cet étant unique qu'est l'homme, c'est son être propre. C'est d'être jeté par l'être lui-même dans la vérité de l'être. Donc, il sent bien que l'homme et la personne humaine s'identifie à l'être. Parce que si vous essayez de comprendre, d'être jeté par l'être lui-même dans la vérité de l'être, afin de veiller sur cette vérité de l'être. Donc l'homme n'est parfaitement homme que quand il pense l'être. Parce que c'est comme ça qu'il veille sur l'être. Il ne peut pas veiller autrement que de penser. Quelque chose donc de tout à fait spécial et très unique. Bon, je m'arrêterai là, puisque peut-être un mot seulement. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois, sur le point de vue psychologique de Charles Audier, qui me semble être le point de vue le plus intéressant de toutes les choses qui ont été dites dans Charles Audier, le point de vue. Quand il essaie de s'édire, parce que pour montrer que de fait, il y a une recherche simultanée des psychologues et des philosophes autour de la personne. Et les psychologues essaient de saisir la personne et de dire ce qu'est la personne. Et je crois que Charles Audier, avec Charles Baudouin, découverte de la personne, ce sont eux qui ont été le plus loin et le plus vrai dans cette recherche de la personne. Alors, Charles Audier, vous savez qu'il essaie de saisir la personne humaine par les sentiments du moi et les sentiments forts du moi. Et les trois sentiments du moi. Il faudrait mettre ça en parallèle avec les vrais pour voir le parallélisme qui existe entre les deux. Les sentiments du moi, c'est la valorisation, l'autonomie. Le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité, de valorisation et d'autonomie. Et on reste dans un point de vue psychologique. Et on ne dépasse pas ce point de vue psychologique. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau psychologique de voir ces trois grandes orientations. Et je crois que c'est dans Charles Audier que c'est dit de la manière la plus nette. prenons d'abord très conscience que, de fait, il y a perpétuellement deux grands courants pour la personne. Le courant éthique et l'aspect métaphysique. Pouvons-nous dépasser les deux ou devons-nous, de fait, toujours reconnaître que la personne humaine étant le sommet de ce que le philosophe peut dire? C'est-à-dire la réalité la plus parfaite de toutes les réalités que je peux expérimenter. Je crois que c'est cela qu'on doit en premier lieu reconnaître par le fait même. C'est normal que toute la métaphysique s'achève dans la recherche de la personne. Et que toute l'éthique, je ne dis pas s'achève dans la personne, mais suppose le problème de la personne et essaie de préciser la finalité de la personne humaine. Ce qui fait que la personne est parfaitement une personne. Donc, il y a de fait ces deux aspects. Le niveau psychologique étant beaucoup plus au niveau de la vie. Mais au niveau philosophique, je crois qu'on aura tout le temps ces deux tendances. Le tout, c'est de respecter le propre de notre intelligence humaine et les limites de notre intelligence humaine qui ne peut pas, dans un seul regard, unir éthique et métaphysique. On le voudrait bien. Alors, c'est peut-être, voyez, le dernier regard du jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, on essaie de comprendre pourquoi nous ne pouvons pas ramener l'éthique à la métaphysique et la métaphysique à l'éthique. Donc, vouloir donner à la personne une espèce de synthèse de l'éthique et de la métaphysique, c'est une erreur. Et je crois que c'est cette erreur devant laquelle constamment on se heurte. Et ça, c'est le jugement de sagesse qui nous montre qu'on ne peut pas unir les deux. Alors, si vous voulez, nous allons regarder d'abord au plan métaphysique, puis au plan éthique. On pourrait faire l'inverse. D'abord le point de vue éthique, puis le point de vue métaphysique, puis en dernier lieu, le jugement de sagesse. Quel jugement de sagesse pouvons-nous avoir à l'égard de la personne ? Il y a bien trois regards différents philosophiques. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois qu'il n'y a que ces trois. Parce que le point de vue politique, au sens fort, ne nous donne pas une nouvelle notion de la personne. C'est, en ce sens-là, ce que Maritain dit est juste. La personne est au-delà du point de vue politique. La personne est engagée dans le point de vue politique, contrairement à ce que dit Maritain. La personne est engagée au point de vue politique. Ce sont les personnes humaines qui constituent la communauté politique. Ça, c'est sûr. C'est pas les individus. C'est les personnes. Mais la personne engagée au point de vue politique n'est pas engagé dans sa totalité. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de définition propre ou de regard propre politique sur la personne. sur l'individu, c'est la même chose. C'est pas l'aspect politique qui définit l'individu et la personne. C'est l'aspect métaphysique seul qui peut le faire. Alors, au plan de vue éthique, si je regarde point de vue éthique, qu'est-ce que je peux dire sur la personne ? Je peux préciser que l'homme a cette chose tout à fait particulière qu'il peut, grâce à l'esprit, l'intelligence et la volonté, poser des actes qui dépendent totalement de lui. Par la volonté, on a cette possibilité de domina sui. Donc, il y a une domination qui se fait par le point de vue de la volonté sur nos diverses activités humaines. Les activités volontaires. Et les activités volontaires sont toutes personnelles. Ça, c'est sûr. L'éthique est au niveau personnel. Et donc, toute l'éthique nous parle de la personne humaine. Ici le cours de l'éthique, mais toute l'éthique nous parle de la personne humaine et toute l'éthique nous fait comprendre que la personne humaine est quelque chose qui se s'acquiert progressivement puisqu'on devient de plus en plus un homme moral et puisqu'on devient de plus en plus un homme moral. On peut dire que la personne humaine s'acquiert de plus en plus comme personne humaine. D'autre part, soulignons tout de suite que l'éthique nous faisant comprendre que ce qu'il y a de plus élevé dans nos opérations humaines, c'est ces opérations volontaires. C'est le volontaire qui est la noblesse de l'opération morale. Je ne dis pas la liberté, mais l'aspect volontaire. Puisque l'aspect volontaire va plus loin que la liberté. Et l'aspect volontaire nous permet de regarder le bien. Et quel est le bien suprême ? C'est l'être premier qui est la bonté pure, la bonté sans mélange. Et donc, c'est l'attraction de ce bien qui finalise l'homme. Et d'une certaine manière, on peut dire que la personne humaine ne sera parfaite comme personne humaine, que lorsqu'elle aura atteint sa fin. Et elle atteint sa fin par sa contemplation. C'est donc par la contemplation que la personne humaine, autant que la contemplation ici sur Terre est possible, que la personne humaine atteint sa plénitude. Et cette contemplation implique l'activité suprême de l'intelligence. C'est donc bien volonté et intelligence qui s'unissent dans cette activité volontaire. Ce que Aristote nous dit dans le 10e livre de l'éthique. Et je crois qu'à ce point de vue-là, le 10e livre de l'éthique est très précieux. Parce qu'il nous montre bien que l'activité ultime, dernière de l'homme, c'est la théoria, la contemplation. Et cette contemplation va donc au niveau pratique définir ce qu'est la personne humaine. Alors essayons de préciser ce que représentent les caractères de cette personne humaine à ce niveau-là. Tant que je ne suis pas arrivé à cette contemplation philosophique, cette contemplation de sagesse, la personne est en devenir. Elle n'a pas atteint toute sa richesse. Puisque c'est le propre du volontaire de caractériser l'homme. Et donc de caractériser un acte personnel. Oui, je caractérise l'acte personnel. La personne se caractérise par son opération. C'est le propre de l'éthique. Et l'opération parfaitement volontaire, c'est la contemplation. Cette contemplation me montre tout de suite que c'est contempler une réalité existante, antérieure à l'homme, qui permet à l'homme de découvrir pleinement ce qu'il est. On voit donc immédiatement que l'autonomie, si importante qu'elle soit, l'autonomie demande d'être dépassée. Et c'est là où on voit la faiblesse de la psychologie. Parce que définir la personne humaine par l'autonomie, c'est oublier que la personne humaine n'est personne humaine que dans sa finalité, que dans son opération qui atteint sa fin. Ça, je crois que c'est très très important pour nous de bien le saisir. Parce qu'on sera toujours en présence de ce problème de l'autonomie au niveau personne. Deuxièmement, je peux dire que cette contemplation implique non seulement la recherche de la vérité, mais une certaine possession de la vérité. Par la contemplation et dans la contemplation, je suis dans la vérité. Une contemplation implique et nécessite cette vérité. Donc la perfection et la plénitude de mon activité intellectuelle, qui n'est parfaite que quand elle atteint la vérité. Et je peux préciser donc que l'intelligence humaine acquiert là une certaine sécurité. La vérité me donne une sécurité intellectuelle, une certitude, qui me stabilise. Un dépassement de soi, puisqu'elle est dans une contemplation. Elle n'est pas en nous. La sécurité qui provient de la vérité exige nécessairement de se confronter à une réalité au-delà de nous. Être conforme à la réalité première dans ce qu'on en saisit. Donc là aussi, ce n'est pas du tout la sécurité telle que les psychologues l'entendent. C'est beaucoup plus dans la vérité que j'ai cette sécurité. Je crois qu'en définitive, seule la vérité sécurise. C'est ce qu'on doit dire en dernier lieu, parce que les psychologues cherchent la sécurité. Mais où est cette sécurité? Cette sécurité, elle ne peut être que dans une intelligence qui cherche la vérité. Et il n'y a que l'intelligence qui découvre la vérité qui peut donner cette sécurité. Donc là encore, vous voyez, dépassement du point de vue sécurité tel qu'elle est regardée au point de vue psychologique. Et enfin, je crois que je peux dire que cette sens